tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour Emma.
Bonjour.
Emma est artiste et artisan, peintre. Donc elle est installée à Perquis. Vous êtes cependant originaire de Hontanx, puisque vous êtes née à Mont-de-Marsan, parce que c'était la clinique qui était à Mont-de-Marsan. Mais vous êtes quand même originaire de Hontanx. Vous avez donc vécu une partie de votre jeunesse dans tout ce secteur du Bas Armagnac que vous aimez beaucoup. On va d'abord voir ensemble qui vous êtes, comment vous avez vécu votre jeunesse, et puis ensuite quelle formation vous avez suivie.
D'accord, donc je suis d'Hontanx. Après je suis partie m'installer à Perquis. J'ai fait mes études, j'ai commencé un bac littéraire option art plastique à Oloron-Sainte-Marie. Après, je suis partie en bac pro communication graphisme à Bordeaux. Ne sachant pas trop quoi faire de ceci, parce que j'hésitais entre l'art et l'informatique, j'ai pris un temps de réflexion pendant un an où je suis partie en Irlande, où j'ai fini fille au père. À mon retour, j'ai rencontré plusieurs artistes ou des gens à leur compte et j'ai décidé de m'installer à mon compte en 2004 au nom de Emma Atelier de Création, où j'ai exercé un petit peu un mélange de ce que j'avais appris dans les études, c'est-à-dire tout ce qui est graphisme, peinture et animation.
Lorsque nous avons discuté un petit peu avant l'interview, vous avez effectivement beaucoup parlé des valeurs qui étaient les vôtres et vous, à la différence parfois de certaines personnes qui sont dans la reconversion professionnelle, qui ont exercé donc un métier totalement différent avant, vous par contre, vous m'avez dit que vous avez toujours été dans la création. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous.
Alors oui, pour moi la création déjà, je l'ai faite, c'est comme une thérapie. C'est-à-dire que c'est un besoin personnel avant tout. C'est pour ça que je le nomme de façon égoïste, parce que j'en ai besoin. Après, c'est comme si j'avais pris conscience que ce besoin-là était essentiel aussi en des valeurs humaines pour moi. Et c'était pour cela que j'ai décidé aussi de rester dans le milieu rural, parce que j'avais un petit peu l'image de l'art aussi au niveau des villes où c'était une élite, enfin c'était réservé à une élite on peut dire, et j'avais envie de partager ça avec les gens d'ici aussi, de partager ma passion de façon assez simple et à travers surtout les enfants.
Il faut dire quand même que vous avez voyagé et ces voyages dans différents pays ont quand même nourri un petit peu vos relations aux autres, parce que bon, pour vous c'est très important la relation à autrui.
Oui, donc j'ai pas mal voyagé, j'ai fait pas mal le Maroc, chez les Berbères, l'Irlande et d'autres destinations, le Portugal et tout ça. Mais l'essentiel pour moi c'est le partage reste une base essentielle pour faire comprendre à l'autre qui on est et nos propres valeurs. Et en fait, au long de ma carrière, entre guillemets, on va dire aussi que tout mon art a été inspiré en fonction de mes voyages. Donc il y a eu des périodes où j'ai fait beaucoup de portraits africains, marocains, parce que étant allé plusieurs fois chez les Berbères, c'est vrai que cette culture m'a énormément touchée. Et au fur et à mesure, en fait, mon art évolue en fonction de mes expériences personnelles aussi. Et le but, c'est pas que je ne veux pas rester en conditionnement dans un style particulier, mais de m'enrichir de toutes mes expériences relationnelles et de le transmettre à travers mes créations. Tout comme j'ai rencontré il y a 3 ans de ça quelqu'un qui travaillait le bois, qui était passionné, qui m'a donné cette envie de découvrir le bois aussi. C'est de ne pas avoir de limites à travers l'art et d'explorer, d'apprendre chaque jour comme j'apprendrai à vivre, enfin à partager avec les autres.
Alors, par exemple, votre voyage en Irlande vous a certainement enrichi de tout un répertoire graphique différent.
Oui. En Irlande, on va dire que... Donc là, je sortais juste des études, donc j'étais vraiment novice dans le milieu. Je ne savais pas trop quoi faire, sauf que j'ai eu la chance de tomber dans une famille, par contre, qui m'a fait entièrement confiance. et qui m'a laissé peindre beaucoup dans les salles de jeu pour les enfants, des fresques murales. J'ai fait beaucoup de tableaux. Donc artistiquement, j'ai un peu, ça a été mon premier contact dans le domaine artistique.
Quand on regarde toutes vos créations, parce que là actuellement je suis donc chez Emma, avec un intérieur extraordinaire, riche, coloré, magnifique, absolument rempli de toutes ces créations, eh bien, je me dis que dans ces créations, il y a beaucoup de matériaux bruts. Et donc, c'est ce que Emma m'a dit, et c'est ce que vous allez dire à nos auditeurs, à savoir que vous récupérez par choix.
Oui, je récupère par choix parce que déjà, je considère que le milieu artistique reste un milieu très cher. Donc, le moindre achat de peinture comme ça reste, il y a un budget à avoir. Et comme je souhaite que ce milieu-là reste accessible à tout le monde, je cherche des solutions. Et surtout, c'est une joie de créativité qui fait que plus on me donne rien, alors c'est très contradictoire, mais moins j'ai de choses pour créer et mieux je me sens. C'est-à-dire que comme ça fait marcher encore plus ma créativité, trouver des solutions avec rien à faire quelque chose de bien, quoi. Donc oui, j'essaye de récupérer au maximum la moindre chose et de trouver des solutions avec et de le partager ça dans les... Enfin, de trouver ces solutions-là et de les partager après au niveau des écoles et tout ça pour montrer aux enfants qu'on n'a pas besoin d'avoir un budget énorme, mais juste un peu de créativité.
Donc, vous récupérez beaucoup de bois en particulier ?
Oui, du bois que Philippe Clavé a la générosité parfois de me donner.
Qui est Philippe Clavé ?
C'est un boisselier qui est situé à Omoko, qui est passionné de bois, qui est admirablement gentil et bon, et qui travaille, donc qui fait beaucoup de tables, de mobilier, les planches à découper aussi, sur lesquelles je travaille également, que je décore. Et après, je vais récupérer le bois aussi à la plage, ou chez des fois des particuliers qui en veulent plus, quoi. Enfin, je prends un peu tout ce que les gens ne veulent plus.
Alors, j'ai aperçu des palettes, des cagettes, non ?
Oui, palettes, cagettes, où j'essaye de faire des fois des tables, des tourées, des cubes de charpente, enfin des restes de bois de charpente, on va dire. Un peu de tout. Donc moi, mon but principal, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment amener... En fait, là où je suis un peu déçue actuellement dans cette société, si je puisse me permettre, c'est qu'on rattache trop à l'art un peu à l'argent. Enfin, c'est une image sociétale qu'on a beaucoup, malheureusement. Et je trouve qu'il est essentiel aussi de montrer un peu ce que l'art peut apporter au niveau humain, et je le maintiens à nouveau, dans le sens des valeurs comme la confiance, oser, la création, toutes ces émotions qu'on peut avoir en nous quand on crée, qui sont essentielles de pouvoir partager et essentielles de connaître dès la scolarité aussi, je pense. Donc je ne dis pas forcément que toutes les écoles devraient avoir des artistes, mais c'est important que les enfants puissent toucher un peu à différents arts sous différentes formes et sans croire que forcément c'est un don ou que c'est accessible que pour certaines personnes. Parce que déjà au niveau du don, comme je dis aux petits que je rencontre parfois, c'est comme l'art pour moi, c'est comme faire du vélo. Ça s'apprend et il n'y a pas une question de quelqu'un a un don de supériorité. C'est accessible à tout le monde et c'est juste oser et encourager la personne à se dévoiler telle qu'elle est.
Alors on parlera tout à l'heure, hein, dans un second volet, de vos activités d'animation avec les enfants. Effectivement, là, vous êtes donc bien dans la transmission de l'art, ce qui est un deuxième volet finalement par rapport à l'ensemble de vos activités. Vous créez pour vous parce que vous en avez besoin, c'est un besoin essentiel, mais ensuite, vous transmettez cette passion aux enfants et peut-être à des adultes aussi.
Oui, pourquoi pas, c'est à réfléchir pour la suite. Dans en priorité, oui, l'enfant, pourquoi ? Parce que pour moi, il est dans une pureté et dans un non-jugement qui lui permet déjà, il a moins de cases en lui, je ne sais pas comment expliquer.
De formatage, il n'est pas formaté.
Il n'est pas formaté, donc déjà, il y a une possibilité d'être un peu plus libre, malgré que j'observe personnellement que dès le CP, CE1, il y a besoin de la règle, il faut que ça soit de telle couleur, vous voyez, l'imagination est déjà un peu cassée, mais c'est important pour moi, pour l'adulte, j'y réfléchirai, parce que oui, ça peut rester essentiel aussi.
Je propose peut-être un petit intermède musical. Vous avez choisi une chanson et vous allez la présenter en nous expliquant peut-être pourquoi vous l'avez choisie.
Donc c'est de Matteo Langlois, c'est « Les codes et les cases », « Des codes et des cases ». Parce que à travers cette chanson, il explique un peu toutes les cases dans lesquelles l'humain est des fois formaté de par son enfance, au niveau du psychisme, parce que mine de rien, on est constitué de tout ce qui nous concerne avant aussi, de par le système aussi. Et en fait, c'est des fois de sortir un peu de tous ces masques qu'on a sur nous pour essayer d'être réellement qui on est, ce qui n'est pas facile, hein, c'est un travail au quotidien, mais de sortir, oui, de ces cases et de décoder ces cases et d'essayer de les observer pour pouvoir en sortir et de ne pas se formater sans arrêt dans des cases voilà, qui doivent nous rassurer sûrement, mais qui au final nous enferment beaucoup aussi.
Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Qu'est-ce que t'as fait de ta case? Je sais plus qui t'es. T'aurais pu la prendre au cas où, pour l'occasion. Alors, qu'est-ce que t'as fait de ton cadre, de ta condition? Si tu te la jouais plus carré, tu te ferais des ronds. Alors, qu'est-ce qu'il arrive dans ta case? Y'a des cassures. Dans ton cas, c'est sûr, les cadres sont tout cassés. C'est pas très carré tout ça. On peut pas caser ton cas. Ta peinture est belle, tu devrais l'encadrer. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Et des cases, et des codes, et des cases. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Alors, qu'est-ce que t'as fait de ta montre? T'es quasiment viré. T'as pas vu le temps filer sur le cadran. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Plus personne ne peut t'encadrer. Case départ ou cas désespéré. Caser le hasard, l'amour, les rêves, les émotions. Tout caser, en tout cas, on en a toujours l'occasion. C'est pas très carré tout ça. On peut pas caser ton cas. Ta peinture est belle, tu devrais l'encadrer. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées.
Pour ce deuxième volet des Landes C'est ma nature, donc, je suis chez Emma. Emma, l'atelier d'Emma à Perquis, qui est artiste. Artiste, donc, tout à fait originale, puisqu'elle travaille essentiellement sur des matériaux de récupération. Et donc là, bah, je me trouve dans son atelier, un atelier qui est très très grand. Vous étiez en train de m'expliquer là maintenant que la thématique de vos œuvres, c'est vraiment par période qu'elle arrive.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai du mal un peu à me, justement, en parlant de cases, à me mettre dans une case particulière au niveau artistique. Parce que comme j'aime découvrir un peu de tout, j'ai eu mes périodes d'abstrait que j'ai encore. Hein. Je dis juste que j'ai des périodes parce que j'ai un besoin, voilà, Après, j'ai eu des périodes où je fais beaucoup de portraits. Là, en ce moment, je suis en train, justement. Après, j'ai eu les périodes où je faisais beaucoup de mandalas ou tout ce qui était un petit à pois avec des petits points, on va dire, ou les fleurs et tout ça. J'aime tout ça. Tout ce mélange, c'est ça qui m'enrichit. C'est, voilà, je peux pas m'arrêter à juste un style ou m'enfermer dans une pratique, on va dire.
Alors justement, il y a de nombreuses productions ici qui représentent toutes ces étapes donc de votre création artistique que vous avez suivie. Vous m'avez parlé à un moment aussi des matériaux sur tissu, puisque vous avez fait imprimer vos œuvres sur du tissu à un moment.
Oui, donc il y a quelques années de ça, j'ai décliné tous mes tableaux sur différents supports. Donc ça a été du bijou, planche à découper, des sacs à main, vêtements et tout ce qui suit du textile. Ça a duré 1 à 2 ans. Il y avait un côté assez commercial qui m'a un peu frustrée à la fin. Donc c'est toujours le plaisir, moi, de découvrir au début. Puis après, si je pars dans quelque chose de trop magasin, trop... Je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur, au final, à chercher des fournisseurs et tout ça. Et je me suis un peu... lassée de ça, donc j'ai un peu arrêté. Enfin, j'ai arrêté totalement d'ailleurs. J'essaye de vendre juste le stock qui me reste, quoi.
Alors, le stock qui vous reste, il faut aller le chercher chez vous.
Oui, pour l'instant, il faut aller le chercher chez moi. J'ai un magasin de dépôt-vente à Sauveterre de Béarn où j'ai des plateaux et un peu de sacs là-bas. Mais sinon, il me reste chez moi encore des bijoux et quelques vêtements et des coussins que je dois prendre le temps de publier aussi. Mais oui, il me reste encore du stock.
Alors, ce stock-là, en fait, on peut quand même l'apercevoir sur votre page Facebook. On donnera l'adresse tout à l'heure, mais moi, j'ai vu sur la page Facebook quelques exemplaires.
Oui, il y en a, oui. Sur Facebook, j'essaie de publier, de mettre ce qui me reste.
Mm-hmm. Alors ici, là, montrez-moi, par exemple, les dernières productions sur lesquelles vous travaillez. Là, vous m'avez parlé de notamment de portraits sur des toiles. Alors, les toiles aussi, vous êtes dans la récupération.
Oui, alors les toiles, je récupère, soit des fois je vais à la ressourcerie à Air ou à Land de Partage, à Mont-de-Marsan, où je récupère des vieilles toiles, des fois même que les gens ont achetées qui sont imprimées, on va dire, dessus, vous voyez, où je repasse dessus de l'acrylique. Ou après, il se peut aussi que des fois je fasse avec mes propres toiles, où je me suis lassée d'un tableau qui ne me correspond plus, on va dire. Donc du coup, je le repeins pour recréer dessus. Voilà, si mon tableau reste trop longtemps chez moi et que je me lasse de lui, je recrée dessus. Donc c'est vraiment redonner vie à la toile jusqu'à ce que j'ai moi aussi une satisfaction. Et dans ces cas-là, après, je mets à la vente.
Bon, moi, je vois des portraits. Vous avez notamment des personnes qui posent pour vous, mais c'est uniquement de mémoire.
Alors non, c'est je m'inspire. En fait, je suis pas une dessinatrice. Ça, je tiens à le préciser. Je ne sais pas dessiner parce que beaucoup pensent. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'un modèle pour tout ce qui est portrait, tout ça. Moi, je suis avant tout et je considère vraiment une coloriste. C'est-à-dire que j'ai plus la notion de la couleur et de l'équilibre de la couleur sur un tableau ou peu importe, même dans un lieu. Que à la base le dessin pur, vous voyez, moi je peux pas faire de dessin à main levée comme ça. Il me faut toujours un modèle ou me donner des zones d'ombre et lumière.
Et cependant, quand on regarde vos productions, déjà quand on voit les portraits qui sont tracés donc sur ces toiles en vue de la future coloration, on a l'impression que votre formation de graphiste quand même vous a bien aidé.
Oui, cette notion d'équilibre, de couleur, de... Après, dans le graphisme aussi, c'est... Moi, ce que j'ai appris énormément, c'est de transmettre à l'autre... Vous voyez, qu'est-ce que l'autre va voir à travers votre toile. Ça, c'est, par exemple, que j'ai créé beaucoup de logos, et c'était s'approprier un peu la pensée de l'autre, ce qu'il ressent, pour le retransmettre en dessin. Donc, sur ça, ça reste la même chose au niveau artistique pour moi. Je réfléchis toujours à comment l'autre va voir la création.
Puisque vous avez parlé de couleurs, que vous êtes une coloriste avant tout, avant d'être dessinatrice, est-ce que vous avez, ou est-ce que vous travaillez d'ailleurs parfois avec des couleurs naturelles ?
Pour l'instant, j'avoue que non. J'ai après des couleurs, des pigments chez moi qui attendent. Pas encore testé, donc j'ai l'idée, on va dire, de le faire et de voir un peu ce que ça donne.
Mais c'est une recherche compliquée. Alors, est-ce que les pigments naturels vont tenir aussi bien que les pigments acryliques, par exemple ?
Exactement, c'est ce que je vais voir, justement. Et après, les supports aussi, pareil, il y a plein de choses que des fois qui ne rendent pas la même chose, quoi. Donc sur ça, après, moi, personnellement, je ne travaille que l'acrylique. Déjà, je n'ai jamais travaillé à l'huile ou à d'autres techniques, on va dire, en peinture. Hein, je parle en peinture. Mais les pigments, oui, j'en ai une gamme pour... et je serais curieuse de voir, même sur le bois. Je fais comme j'aime bien tester tout. C'est pas quelque chose qui me reste irréalisable ou inaccessible.
Alors, ça sera pour de futures recherches.
Exactement.
Vous pouvez effectivement nous expliquer comment vous travaillez exactement.
Alors pour tout ce qui est création, bon pour les toiles, comme je vous expliquais, ça c'est pas compliqué, je trace et je peins. Pour tout ce qui est création du bois, par contre, dans le bois, il faut savoir que déjà j'ai une base où j'ai la planche brute, donc là moi il faut que dehors je la ponce, que je la découpe au format que je veux. Après, donc c'est assez physique hein, malgré tout. Je travaille après avec un élément qui est, enfin une machine qui est la défonceuse. Celle-ci, elle me permet après de défoncer ben, les parties du bois que je veux mettre en valeur. Et dans lequel après j'incruse différents matériaux tels que de la corde, de la mosaïque. Parce que moi, artistiquement, mon but c'est vraiment toujours cette découverte et ce mélange de différentes matières. Ça a été aussi bien artistiquement à travers mes peintures ou en abstrait quand je mettais du sable, voyez, du tissu. En fait, j'aime pouvoir que les gens découvrent un tableau, mais aussi bien de loin que de près. C'est-à-dire qu'ils soient toujours émerveillés de ce qu'ils peuvent découvrir dessus et de ne pas s'arrêter juste à une technique de peinture, mais vraiment à s'en rendre compte qu'au final, il y a plein de choses qui émergent de la création.
Alors, quand vous avez utilisé le terme « défoncer le bois », qu'est-ce que vous entendez exactement par là ?
Eh bien, c'est une machine qui perfore, entre guillemets. À la base, la défonceuse, elle est faite pour faire les rainures des portes, je crois. Et donc, moi, je m'en suis servie artistiquement pour décorer dans le bois. Après, elle se manie par la force des bras, on va dire. Et en fait, on choisit la profondeur dans laquelle on veut creuser le bois.
Donc vous avez un schéma quand même préétabli. Lorsque vous travaillez sur une planche de bois, vous savez exactement à quel résultat vous voulez arriver, non ?
Alors je trace, ça c'est très bien, je trace toujours, ça c'est vrai, mon idée première. Mais c'est ce que j'expliquais dernièrement justement aux enfants en animation. Par exemple le lion, le dernier lion que j'ai fait, qui est dans mon salon, le résultat je ne le savais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai toujours l'idée, on va dire, dans ma tête, donc ça c'est dans mon esprit. Mais après quand je le mets en matière... Ça évolue sans arrêt et au final, je savais que j'allais défoncer à tel endroit le motif, d'accord, mais après, je ne savais pas que j'allais mettre du cuir à cet endroit-là, cette couleur, la corde et tout ça. Ça, c'est une découverte sans arrêt. Donc, c'est pour ça que je suis en création de A à Z. J'ai pas... Rien n'est, vous voyez, bien établi et arrêté, quoi.
Donc, vous avez un processus de création quand même tout à fait original. Vous pouvez le présenter rapidement ?
Ben en fait, je me suis rendu compte, puis en discutant avec des amis qui sont dans le milieu aussi, enfin, sous différentes techniques, on va dire, que quand je suis plus autodidacte qu'autre chose, dans le sens où, pour créer, j'ai besoin d'être avant tout libre. Vous voyez, il y en a certains qui ont besoin de beaucoup d'apprendre de techniques, qui vont faire plein de formations à droite et à gauche, que je respecte totalement. C'est juste une observation que j'ai faite. Et moi, ben, c'était le contraire. En fait, c'est pas que les techniques, je les refuse, c'est que d'abord, il faut que je me sente libre, moi, d'être vivante et de pouvoir travailler librement. Et à partir de là, je préfère qu'on me présente, par exemple, un morceau de bois, qu'on me dise, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Et à partir de là, je vais choisir des techniques, m'instruire de choses, essayer de découvrir autre chose. Mais il me faut cette liberté en priorité, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait des études artistiques poussées. Voilà. Il fallait que je me sente... Et puis, j'aime découvrir par moi-même. On peut m'expliquer, mais il faut que je fasse.
On est reparti chez vous. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'œuvres qui sont présentées et qui sont donc certaines à vendre.
Oui.
Hein, voilà. Alors, il faut quand même le dire, hein, malgré tout, parce qu'il faut vivre un petit peu. Hein. Vous allez peut-être en présenter quelques-unes, puis ensuite, on va parler de votre activité d'animation.
Il y a le lion que vous avez face à vous. Donc, je l'ai fait à partir d'une planche qu'on m'a donnée. Je l'ai tracé. Après, j'ai défoncé. À la défonceuse, j'ai choisi les éléments que je voulais mettre en valeur ou en relief. Et dedans, j'ai intégré de la corde, de la mosaïque, du cuir. Et après, je travaille beaucoup au Posca pour finir, pour faire des petits points, voilà.
Le Posca,
c'est des feutres peinture. La marque, c'est Posca, mais c'est des feutres peinture où dedans, il y a de l'acrylique.
Très, très beau lion, hein, vraiment. Et ensuite, d'autres œuvres, alors tout à fait différentes. Par exemple, là-haut, il y a un tableau avec des motifs géométriques. Moi, je trouve que ça fait très graphisme.
Ça fait
graphisme. C'est quand même une formation de graphisme.
Après, c'est beaucoup les courbes, le mélange. On va dire que c'est pas la même façon de... Ce style de tableau, vous voyez, comparé à des portraits. Le portrait, quand je fais des portraits, dont il y en a pas mal aussi chez moi, le portrait me demande plus de technicité, justement. Et donc, j'ai un peu plus de frustrations qui me sont nécessaires, hein, aussi dans l'art. j'apprends à travers ça, justement. Et je l'ai fait plus pour, évoluer personnellement. Et ce genre de tableau où c'est plus dans le graphisme, c'est pour m'évader totalement. Donc c'est deux sensations totalement différentes. Il y en a une où mais je crée, où je ne vais pas avoir d'heure, je vais pas avoir le temps passé. Je peux créer jusqu'à 3-4 heures du matin. Et une autre où je suis plus dans la performance technique, où je me dis, allez, essaye de développer ça, essaye de trouver l'ombre exactement comme ça. Où c'est, là, je travaille plus mon technique. Ouais.
C'est quand même bien en cherchant qu'on trouve des solutions. Parce qu'à un moment donné, il y a un obstacle, il faut le dépasser.
C'est exactement ça. Et c'est ce que je prône justement dans l'art et la créativité. C'est que pour moi, l'obstacle, il est bénéfique. Et contrairement dans le système, dans la société, des fois, on a toujours peur de l'échec. Et au contraire, sans tous ces échecs, et sans tous ces obstacles et tous ces jugements que j'ai eus dans ma carrière, dans mon métier, jamais j'aurais pu être qui je suis. Et au contraire, ça amène beaucoup de confiance. C'est très dur hein, d'entendre parfois, parce que l'art, quand même, on se dévoile nous-mêmes. Moi, je considère que je suis un peu, d'une certaine manière, nue face aux gens, dans le sens où je mens pas avec qui je suis quand je crée. Mais donc, des fois, ça fait mal d'entendre des critiques, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais du coup, ça demande aussi à se remettre en question, parfois, et de garder confiance et de persévérer dans qui on est, malgré tout, quoi.
Alors, à côté de votre production donc artistique, vous êtes aussi animatrice vers les enfants. Ça, c'est un autre volet de votre personnalité, de votre activité, tout à fait différent.
Eh bien, on va dire que quand j'ai fait mes études, quand je suis partie dans mes études artistiques, j'ai beaucoup hésité au tout début à être éducatrice, parce que j'aimais beaucoup le relationnel et les contacts avec les enfants aussi. Mais je me sentais beaucoup trop sensible et pas sûre de moi, et je pensais que c'était un métier qui demandait beaucoup de force. Donc j'ai préféré partir dans le milieu artistique pour un peu me guérir, sous une forme, d'une manière, on va dire. Et mais plus les années passent et plus je me rends compte qu'au final, je peux très bien partager mon art avec les enfants, donc associer les deux. À travers les enfants, ce qui me plaît aussi, c'est que je remarque, depuis le nombre d'animations que j'ai fait dans les écoles, que c'est toujours les enfants plus ou moins rejetés ou un peu en échec scolaire qui adhèrent un peu plus à mon activité. Et ça, pour moi, c'est une base importante parce que ça montre que les enfants... Ne sont pas exclus de tout et qu'il y a toujours moyen de pouvoir les intégrer ou leur donner des valeurs ou une importance à ce qu'ils sont.
C'est assez logique parce que finalement, pour être un artiste, il ne faut pas être dans des cadres ou dans des moules. Il faut les faire éclater au contraire. Donc effectivement, les enfants qui ne rentrent pas facilement dans ces structures que l'école à un moment nous impose, hein, eh bien, ce sont peut-être ceux qui ont justement la plus grande liberté de création.
Exactement. Et mais d'ailleurs, moi, ce qui m'a le plus enrichi personnellement, c'est quand j'ai travaillé aussi dans l'INITEP à Dax, où justement ces enfants-là, à grosses difficultés, avaient non seulement une créativité qui était méconnaissable à leurs yeux, hein, parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux et qui est extraordinaire au final, et surtout, c'était où ils étaient conscients de ce que l'art pouvait leur apporter, je pense. Enfin, ils savaient que là, à travers ça, il y avait quelque chose qui leur donnait la possibilité d'exister. Et cette joie de une vie en eux qui les anime, on va dire. Et actuellement, sans être très négative, mais je trouve que des fois, dans les écoles, les enfants sont trop habitués aussi à une lassitude, vous voyez. Il y a quelque chose qui se fait qu'il n'y a plus cette énergie de vie en eux où tout est normal, tout est dû. Je trouve dommage des fois d'oublier ça, enfin, d'oublier de montrer aux enfants que, mine de rien, il y a des choses essentielles et importantes qui peuvent leur arriver, de ne pas partir toujours dans ce... où on essaye d'endormir l'esprit, je trouve, à travers plein de choses.
Bon, ça, c'est un problème de société. Hein.
Oui,
voilà.
Là,
bon. Alors, on va terminer donc cette interview en voyant avec vous donc comment on peut vous joindre, Emma. Alors, vous avez d'abord un téléphone, vous avez aussi page Facebook.
Alors, j'ai une page Facebook pro à Emma. Après, j'ai une page perso Emma Chobi, mais de toute façon, où je mets mon professionnel dessus aussi. Je ne suis pas super à l'aise avec les réseaux sociaux. J'essaye hein, depuis 5 ans de m'y mettre. J'ai une page Instagram aussi, Amema40. Et un site internet, mais qui n'est toujours pas alimenté, on va dire, qui existe, mais qui n'est pas alimenté, donc je ne donnerai pas le lien. Et mon numéro qui est le 06 74 02 19 43. auxquels je peux répondre, sauf le week-end.
Ben oui, bien sûr, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Emma pour cet accueil. C'était vraiment extrêmement passionnant de vous entendre et puis de voir ce, je dirais, cet environnement qui est tellement riche en production. On sent quand on arrive chez vous la richesse, effectivement, de votre personnalité qui s'exprime à travers votre propre environnement, celui que vous avez créé chez vous. Merci Emma.
Et merci beaucoup à vous, hein. C'est très gentil de votre part et ça me touche, vos mots me touchent.
Adi Schatz.
Adi Schatz.
C'était les Landes et ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.